La garçonne, deuxième partie, chapitre 2. Le jazz band déployait, sur le dancing en folie, ses rythmes sauvages. Les couples se balançaient dans un éclairage bleu. Michel Dantraigue poussa du coude Hélène Suze, qui, à petite gorgée, dégustait au bout d'une longue paille son ice cream cherry. « Oh, regarde !»«
Quoi ?»
Penché au bord de la loggia, Michel désigna. « Là, à côté du professeur et de la petite Anglaise, ces deux femmes, elles passent sous le lustre. »«
Sans les cheveux courts et à cajou, on dirait Monique. C'est elle, n'est-ce pas mon petit Max ?»
Le critique, ayant ajusté son monocle, déclara.
« C'est bien elle. Ce que ça la change, par exemple, cette coiffure. » Aujourd'hui, pour la femme, c'est le symbole de l'indépendance, sinon de la force. Jadis, Dalila émasculait Samson en lui coupant les cheveux. Aujourd'hui, elle croit se viriliser en raccourcissant les siens.
« Elle a 10 ans de plus !» s'écria généreusement Hélène Suze.
« Mettez 5, et comme elle en paraissait 19 quand elle avait près de 21, ça ne lui fait jamais que son âge, puisqu'il y a 2 ans au plus qu'elle a fait le plongeon. »
23 ans, elle en paraît 30.
Allons donc, elle n'a jamais été si bien. Toujours le même éclat, avec un petit quelque chose de mystérieux, de meurtri. Moi, je la trouvais pas tante. Aïe !
Il se retourna furieux vers Michel et la menaça.
Toi, si tu recommences, la tripoter.
Mais elle déclara avec son air de chatte gourmande. J'adore ça. Elle avait, depuis le soir de Méné, attaché Max Delhomme à sa personne pour les soins particuliers. Vite délaissée par Ponette, qui s'était elle-même éprise de Sacha Volant après son triomphe du circuit de l'Isère, Max avait, de son côté, trouvé goût à la mitoyenneté avec Dantraigue. Absorbé par son écurie de course et l'éducation des jeunes jockeys, le marquis jouissait de la dot et lui de la femme. Madame Jacquet, depuis le prix Georges Sand, l'avait adoptée et cuisinait pour lui, à ses jeudis, le grand prix du roman. Académie française, 30 000 francs. Une réplique à la concurrence du grand prix Balzac, 20 000 francs, Z. Makarov, fondateur. Les dernières mesures du chimie s'égrenaient. Les couples se dénouèrent. Michel braqua son face à main.
C'est vrai tout de même, Monique a un caractère étonnant. Par exemple, la cavalière, quel genre ?
Max Delhomme l'a reconnue.
Mais c'est Niquette !
Non, ce que ça la change d'être teinte !
Elles sont donc toujours ensemble ?
S'étonna Hélène Suze. Curieusement, il dévisageait Monique L'Herbier, décoratrice, et sa fameuse amie, Niquette, l'étoile de Music Hall, depuis 30 ans célèbre. Paris raffolé de sa voix aigre et de ses jambes parfaites, spirituelles autant qu'était agile sa langue, toujours frétillante au coin des lourdes lèvres. Laide, avec son nez retroussé, n'eussent été les yeux d'escarboucle.
« Il n'y a pas à dire, elles ont du cran », constata Max Delhomme.
Niquette et Monique venaient de se rasseoir à leur table. On eût dit un ménage amoureux. Tendrement, Niquette se pencha, enveloppa de son écharpe de fourrure le cou de Monique.
« C'est touchant !» blagua Hélène Suze. « Ne t'excite pas, Suzon !» dit Michel. « La place est prise !»
Hélène Suze, dont les goûts lesbiens s'affichaient de plus en plus, haussa les épaules. Elle avait toujours gardé rancune à Monique d'avoir repoussé, autrefois, les avances qu'elle lui avait fait faire par Ginette Morin, avant que celle-ci, en remplacement de Madame Huttier, enlevée par une embolie, ne devint vice-présidente de l'œuvre des mutilés et, bientôt, ministresse dans le cabinet Pertot. Ginette. Hélène Suze donna un souvenir à son recoulement de colombe quand on lui baisait la bouche. C'était le temps des bonnes soirées chez Annika Gobroni. Pas bégueule au moins, J, comme cette sainte nitouche de Monique. Hélène Suze était de celles qui avaient accueilli sans contrôle toutes les horreurs qui d'abord avaient couru. Vigneret avait surpris sa fiancée dans une chambre d'hôtel avec un négociant roumain dont elle était enceinte. Les parents l'avaient chassée, la tante s'était suicidée de chagrin. Aujourd'hui, à retrouver leur ancienne amie relancée avec éclat dans la circulation parisienne, Max Delhomme et Michel d'Entraigues, oublieux de leur récent dédain, lui souriaient indulgents. Hélène Suze alla même jusqu'à déclarer « Après tout, elle est bien libre. Avec du talent et de l'argent, on peut tout se permettre. » Froidement lâchée par tous du jour au lendemain, Monique, un an après sa disparition, avait fait sa rentrée en ouvrant, rue de la Boétie, un magasin. Art ancien et moderne. Pierre Dessouzet, rencontré peu avant, comme elle venait de réaliser la petite fortune de sa tante, 150 000 francs d'économie et autant du pensionnat vendu, l'avait orientée vers la profession dont il tirait lui-même sa matérielle. Dans son dégoût de l'existence, elle avait trouvé en lui, en même temps qu'un associé dévoué, un indicateur et un guide d'autant plus précieux qu'il était, hors le point de vue commercial, désintéressé. Des cartes élégantes avaient notifié, aux relations d'antan, le faire-part de résurrection. Monique L'Herbier, au Chardon Bleu. Mais tout le monde avait boudé. Monique, qui, en dehors de Madame Ambra, le dimanche, ne voyait plus personne, avait alors passé des jours noirs. Le marasme général des affaires ajoutait à sa neurasthénie. Elle restait des semaines à se morfondre, sans voir que des passants. Il marchandait beaucoup et déboursait peu. Les ressources, passées presque entières aux achats de fonds, diminuaient si vite qu'elle commençait à désespérer. Cependant, l'autorité mondaine de Pierre Dessouzet, doublement réputé comme antiquaire amateur et comme inverti, était grande. Sa clientèle ordinaire se refusant, il avait un jour rabattu une niquette sur Monique et, du coup, la rue de Boétie avait trouvé un achalandage artiste et cosmopolite. Les installations de Mademoiselle L'Herbier devenaient à la mode. Une personnalité neuve avait alors surgi, qui, différente et entourée d'une atmosphère de succès, faisait oublier la déclassée de naguère. Poussée par le bouillonnement des ondes nouvelles, le cercle purulent des vieux potins achevait de s'effacer sur la grande mare. Niquette sentit poser sur Monique et sur elle, comme une piqûre de mouche, l'attention d'Hélène Suze. Elle la dévisagea. « Qu'est-ce qu'elle a à nous reluquer, celle-là? Tu la connais? Regarde, dans la loggia à gauche. » Monique repéra aussitôt. Et, dédaigneusement, d'anciennes amies. Elle les nomma. En même temps, Hélène Suze mimait « Bonjour !» d'un air de surprise joyeuse. Monique y répondit par un vague salut. Elle mesurait, à son indifférence totale, tout le chemin parcouru dans l'éloignement du passé. C'était la première fois qu'elle rencontrait ses revenants. Témoins de son existence antérieure, il ne l'émouvait pas plus que si elle leur eût dit au revoir la veille. Elle sentit, à ce signe, la plaie en train de se cicatriser. N'avait-elle pas, un mois plus tôt, aperçu déjà son ancienne rivale, Cléo, à une répétition générale, sans rien éprouver qu'une curiosité platonique? Les seuls êtres dont la vue eût été capable de la faire souffrir encore, comme souffrait son souvenir chaque fois que, de plus en plus rarement, elle ressassait les jours abominables, c'étaient ses parents et Vigneret. Elle n'avait jamais retrouvé celui-ci sur son chemin. Et elle avait obstinément refusé tout rapprochement avec les siens, malgré les invites que Madame L'Herbier, depuis quelques mois, lui avait faites à diverses reprises. Monique, étant quelqu'un, commençait à revaloir quelque chose. L'orchestre, attaquant une scottish espagnole, coupa court à la mauvaise humeur de Niquette. Elle grognait en enlaçant sa danseuse qui se laissait faire ainsi qu'une dormeuse debout. Hélène s'use. « Attends donc, j'ai entendu parler d'elle par un type qui fumait chez Annika. Il paraît qu'un soir de réveillon, il y a 2 ans, ils ont fait dans son atelier une de ces bombes. » Oui, ta Suze, et une pucelle à la mormoile doigt qui aurait épousé depuis un ministre. Mais ce jour-là, il n'y en avait que pour ces dames. Pourtant, il y avait aussi là un journaliste qui regardait. Attends, tu ne connais que lui, celui qui fait les maisons de couture. Un blond, la bouche en cœur. Mercœur ? C'est ça. Je savais bien qu'il y avait du cœur là-dedans, si l'on peut dire. Du joli monde. Et le nôtre ? Au moins, s'il a du vice, il ne s'en cache pas. Pourri dessus et sain en dedans, c'est plus propre, au lieu que celle-là, hypocrite et compagnie. » Tout en parlant, elle modelait sur sa souple carcasse le corps docile de Monique. Dans une sorte d'inconscience, celle-ci s'abandonnait au rythme impérieux des mouvements de Niquette. Un feu brûlait, inextinguible, dans les os de la quinquagénaire, si prodigieusement conservée par la gymnastique et l'hydrothérapie qu'elle n'accusait pas, à la ville comme à la Seine, plus de 35 ans, sous le secret des phares. Plume et poils, tout était bon à son ardeur célèbre. Elle n'en avait pas moins gardé 15 ans un danseur-chanteur, élevé par elle à la grande vedette, et venait de le quitter, il y avait 6 mois, pour Monique. Amours en titre qui n'empêchaient ni les béguins de sexe différent, ni les affaires. Insoucieuse de l'affichage, Monique se laissait aller au bras dominateur. Le bien, le mal, mot vide de sens. Il tintait à ses oreilles comme des grelots fêlés. Elle était là parce que son métier, le hasard, l'y avait conduite et que son insensibilité s'en accommodait. Avec l'apparence de la guérison, elle demeurait comme une malade, anesthésiée encore sous le chloroforme de la table d'opération. C'est ainsi qu'elle savourait, les yeux mi-clos, l'ivresse de tournoyer silencieusement. Les premières caresses de Niquette, en réveillant en elle une sensualité froissée à l'instant de naître, avaient laissé sceller, au fond de son cœur, la sentimentalité d'autrefois. Bien morte, croyait-elle. Elle aimait, pour cette analogie, les vers du pauvre et profond Sera, un des jeunes poètes fauchés par la guerre, âme tendre qu'elle chérissait. Cœur de plomb où l'amour pourrit avec l'orgueil sous les raies de linceul de bois jaune et d'ébène. Mais elle était, en même temps, riche de trop de sève pour que ce qui ne bourgeonnait plus d'une sorte ne jaillît pas d'une autre. Ainsi le plaisir l'avait amenée, peu à peu, à une demi-révélation de la volupté. Minute brève et au fond décevante. Pourtant, ces baisers, où la tendresse apitoyée se mêlait au trouble attrait d'une découverte, ne lui répugnaient pas. Sous le visage de la consolation, celui de la jouissance était confusément apparu. Monique gardait à Niquette la reconnaissance de ne lui avoir apporté l'une qu'après l'autre, en ne lui découvrant que petit à petit, sous la délicatesse de l'amie, la fougue de l'amoureuse. Elle tournait, le regard perdu. Elle était si étroitement enlacée que, serrant une jambe de Niquette entre les siennes, elle sentait onduler en elle le mouvement de la danse. Un Argentin qui les croisait, narquois, eut un clapement. « Eh bien ?» Niquette éclata de rire. « On se passe bien d'eux ?» Monique approuva d'un abaissement de cils. Cependant, tout en éprouvant toujours, aux heures de leur abandon, le même agrément, elle commençait à ouvrir sur le monde des sens une pensée moins restreinte. Les hommes, après en avoir eu d'abord, effarouchement, le dégoût, puis le dédain, elle commençait à les prendre de nouveau en considération. Mais elle les voyait exactement sous le même angle qu'un garçon les filles, sans aucun vague à l'âme. Curiosité qu'elle ne s'avouait pas encore, dans cette inertie d'âme où elle flottait comme une épave, mais qu'elle n'écartait pas, lorsque d'aventure, elle levait les yeux sur quelqu'un qui n'était pas, a priori, déplaisant. « Zut !» dit Niquette en consultant sa montre bracelet, comme elle rassayait. « Il est 10 heures et mon sketch passe à 11. On file ?»«
Oh, tu as le temps, beauté !» dit Monique.
Le casino était porte à porte avec le dancing.
« Le temps de m'en refaire une, oui. Tu viens ?»
Mais Monique ne se sentait pas ce soir en humeur de traîner, comme d'habitude, dans l'asphyxie de la loge étroite et la promiscuité de l'habilleuse. Tous les parfums de Niquette ne parvenaient pas à dompter, dans ce couloir, l'odeur des cabinets proches.
« Je te rejoindrai.
Toi, tu as envie de me faire cocu. »
Menaçante, Niquette chercha des yeux Hélène Suze dans sa loggia. Elle était vide. Une frime pour se retrouver ailleurs? Et, soupçonneuse, « Vous avez rendez-vous, hein ?» Monique trouva la supposition si cocasse qu'elle s'exclama en souriant.
« Je te le dirai.
Que je t'y prenne.
Tiens, bonjour, Briscoe.
Bonjour, ma reine. »
Niquette serrait la main du fameux comique. Ils se connaissaient depuis toujours, ayant gagné sur les mêmes planches, grade à grade, leurs étoiles. Monique ne détestait pas la fantaisie de Briscoe. Et, sous l'air voyou, sa bonne bille ronde.
« Tu ne joues donc pas ?» dit Niquette. « Et la revue ?»«
Répétition pour les lumières. »«
Alors tu vas me garder cette petite fille qui a envie de danser encore. Et vous venez me prendre au casino, tous les deux, après mon sketch, pas ? On ira ensuite souper n'importe où. »
Briscoe fit le salut militaire et Niquette partit tranquille. Ayant réclamé un Irish and soda, il s'était assis à la place chaude. Il cligna de l'œil.
« Dites donc, en passant rue de la Boétie cet après-midi, j'ai vu votre décoration de studio, turquoise et mandarine. Ça chante !»«
Vrai ? Pourquoi n'êtes-vous pas entré ?»«
Pas mèche, je pistais une de ces américaines. Tenez, dans votre genre, rose les cheveux à cajou. Et un de ces sautoirs, les perles lui tombaient aux genoux.
Vous en avez fait autant ?»
Il apprécia.
Drôle. Ah, Niquette ne s'embête pas.
Et vous ?
Moi non plus. Pour s'embêter dans ce bas monde, il faut être dingo.
Courte et bonne.
Il eut un rictus allusif.
À votre service.
Merci, je n'en use pas. Gardez ça pour l'américaine.
Histoire ancienne, à une autre.
Non, comme ça, au premier regard ?
Il confia.
Elle m'avait reconnu.
Tout s'explique.
Cet étrange prestige des pitres, et parfois des plus laids, Monique ne l'avait jamais compris. À quel désir cédait celle qui les choisissait ? Elle regarda attentivement Briscoe et fut surprise de le faire sans répulsion. Il avait un air de santé paysanne, et embusquait sous la paupière un peu tombante l'éclair d'une malice tendre. Il grommela.
« Moi, c'est ça, fichez-vous de moi. J'allais justement vous dire quelque chose de gentil. Une idée qui m'est venue en regardant votre machin turquoise. Mon ami Edgar Lair,
le comédien ?
Oui, il va jouer une pièce de Perfeuille, mise en scène et tout. De décor, des intérieurs. Si ça vous amusait de meubler ça, je pourrais lui en parler.
Sans blague.
Ça vous plaît ?
C'est fait.
Ah, oh, merci.
Bah, entre copains. »
Il la regardait à son tour et, réclamant un autre Irish and soda,
« C'est vrai, vous n'êtes pas comme les autres.
D'abord, de plus appétissante, on peut courir.
Et puis, vous avez des façons de parler, d'agir, carrément, proprement, bien que vous n'en fassiez d'ailleurs qu'à votre tête. Hein. Mais avec vous, ce n'est tout de même pas comme avec l'américaine. On doit rester camarades. »
Un tango déroulait, comme un lien, ses premières mesures. Il se leva.
« Allons, pour faire jaunir Niquette !»
Mais, Briscoe, si jamais cela me faisait plaisir d'imiter l'américaine.
Et là, bas les pattes, je n'ai pas dit avec vous.
Pourquoi Niquette ne le saurait-elle pas?
On n'est pas mariés d'abord.
Et si on l'était, raison de plus pour être franc.
Elle avait mis machinalement une main dans celle de Briscoe, l'autre sur son épaule. Il en serra discrètement la taille ronde. Elle le ployait au balancement du rythme. Il sentait, contre sa poitrine, la ferme tiédeur des jeunes seins blottis. Souvent, depuis qu'elle faisait ménage et le meilleur avec Niquette, Monique avait dansé avec des hommes. C'étaient les seuls partenaires que lui permit, en dehors de quelques amis éprouvés, une jalousie dont elle s'amusait, comme d'une marque d'affection. On n'a de tendresse exclusive que dans un sentiment sincère. Elle ne songeait pas à s'offenser d'une vigilance qui ne pouvait être blessante, étant donné leur convention de réciproque aveu, si quoi que ce soit le motivait. La seule éventualité que la tolérance de Niquette rassurait quant au danger masculin n'eût pas prévu, c'est qu'à la longue pouvait naître, de ces frôlements renouvelés, quelques combinaisons d'électricité inattendues. 100 fois, Monique avait tourné au bras de cavalier charmant, sans penser à prendre d'autre plaisir que celui d'un enfant qui s'agite innocemment. Il était fatal qu'un jour, dans ce vertige de mouvement, de son, de clarté, dans cette ivresse particulière que charriait, aux veines les plus lentes, l'atmosphère âcre et surchauffée, un instant vint où le contact, d'instinct, s'établirait. Ce fut Briscoe qui, sans même le vouloir, déclencha le courant. Il n'avait attaché tout à l'heure aucune importance à ses plaisanteries. Mais au balancement de la mesure, qui, après la marche des corps jumelés, inclinait le va-et-vient sur place du corte à ce simulacre crûment évocateur de l'acte, Monique sentit contre sa chair, imperceptiblement d'ailleurs, puis avec une précision telle qu'elle faillit s'arrêter, rompre l'étreinte, son danseur se roidir. Sous la légèreté des étoffes, la chaleur du sang brûlait en nœud. Un engourdissement la pénétrait. Elle ferma les yeux et se serra davantage. Bras tendus, ils serpentaient, noués. Leurs doigts joints s'entremêlèrent, paume à paume, et, du coup, l'imagination de leur nudité. Il avait d'abord affecté un air détaché. Puis, voyant que loin de se défendre, elle s'abandonnait, il plaqua fortement à son déhanchement la croupe nerveuse. Il était affolé de sentir remonter, de son épaule à son cou, la caresse inconsciente d'une main crispée. Ils roulaient l'un sur l'autre, puis tanguaient, dans un flux et un reflux mécanique, accomplissant, avec lenteur, la répétition du geste héréditaire. Le tango cessa net, leurs bras se délièrent. Ils se contemplaient avec une espèce de stupeur, comme si, revenus d'un voyage lointain, ils se retrouvaient en face l'un de l'autre, après l'absence, sans se reconnaître. Il eut l'esprit de ne faire aucune allusion au coup de folie qui venait de les secouer. Habitué à feindre des sentiments qu'il n'éprouvait pas, il emportait cependant de l'aventure celui que ce jeu valait autant que la réalité. L'idée d'avoir trompé Niquette faisait luire gaiement son regard. La simplicité de Monique, en le déconcertant, le ramena au bon sens et l'aguicha définitivement. Elle constatait. « Vous dansez très bien. On recommencera ?» Rouge encore et les yeux brillants, elle ne témoignait dans sa satisfaction d'aucune fausse pudeur. Elle se disait. Après tout, ce n'est qu'un exercice de gymnastique, mais tout de même bien agréable. Je ne l'aurais pas cru. Le lendemain, au Chardon Bleu,
où, à côté du studio turquoise et mandarine, Monique avait installé le matin même un boudoir aubergine avec des bois d'érable mouchetés, elle écoutait avec déférence Edgar Lehr. Amené par Briscoe, il proférait des paroles définitives à l'ébahissement de Mademoiselle Claire. C'était la première vendeuse de Monique, Mademoiselle Tcherbaliev, une jeune fille de l'aristocratie russe, déracinée par la tourmente révolutionnaire, et qui, après avoir fait du ciné pour vivre, se trouvait heureuse dans son abri momentané. Pour le 1, ou l'amour né, je vois des tentures hannetons écrasées, à grands plis, rien d'autre. Les limbes. Pour tout meuble, une récamier et un guéridon de laque noire. Et des coussins, des coussins, des coussins. Niquette, modern style, approuvait. Briscoe, désintéressé, battait du bout de sa canne une marche redoublée sur le ventre d'un bronze hindou. Ah ! Rugit Edgar Lehr avec une furie subite. Fini, tu m'exaspères ! Les vitres tremblèrent. Il enleva, jeta sur un fauteuil le vaste feutre dont il ombrageait son front génial, puis, d'un minuscule mouchoir de soie verte, pendant de la poche de son veston, il s'épongea. Sous la coupole crânienne, son visage de bouledogue fronçait un petit nez écrasé, au-dessus d'une lippe pendante. « Il est fou !» pensa Monique, « ce coco-là !» Le comédien reprenait d'une voix posée. « Aux deux, l'amour est né, coup de la passion, rouge, rouge et or, du sang, tous les rouges, les plus violents, que sa gueule, voilà !» Monique réprima son envie de rire. « L'indication est excellente, je vois. Et pour les meubles ? Pas de meubles, des tapis et des coussins, des coussins, des coussins !» Mademoiselle Claire, qui, un crayon à la main, notait, s'exclama « Magnifique !» Edgar Lehr salua avec dignité et, se tournant vers Monique, « Compris, mademoiselle, les maquettes dans 3 jours. Je ferai de mon mieux. » Il laissa tomber, condescendant, après un regard circulaire. « Vous avez du talent, et quand vous aurez travaillé avec moi... » Il ouvrit d'un rond de bras l'avenir illimité et se couvrit avec la fierté d'un grand d'Espagne. Puis, se tournant vers Briscoe, « Tu viens, vieux ? Mesdames ?» Il exécuta majestueusement sa sortie. Monique leva les yeux au ciel et Niquette s'écria. « Est-il beau, l'animal ?» Dans son genre. Niquette, dextrement, le déchiquetait. L'orgueil à ce point-là. Attends que je l'annonce. Messieurs, l'empereur. Il entre et défait son cache-nez. On dirait qu'il enlève le grand cordon. Il arpente le plateau. Pan, tous les acteurs à plat ventre. Car auprès de lui, Antoine, Gémier, Guitry, de la gnognotte. Ah, il a rugi. Les décors tremblent et l'auteur s'est évanoui. Avec ça, rigolo, s'il jouait au music hall. Mais Briscoe le mettrait encore dans sa poche. « Il est gentil, Briscoe, » murmura Monique. Elle lui était reconnaissante de son entremise. La pièce de Perfeuille, bien présentée, pouvait être une réclame utile. Travail intéressant, en tout cas. Elle songeait, amusée, à leur soirée achevée autour de quelques douzaines d'huîtres et d'une bouteille de champagne au prieuré. Les deux grandes vedettes, à la prière publique, avaient chaloupé une de leurs anciennes valses. Le restaurant n'avait jamais connu pareil enthousiasme. Les étrangers, debout sur leurs chaises, acclamaient avec frénésie la gloire de Paris à travers ses célébrités mondiales. Monique, ayant avoué en plaisantant son infidélité à Niquette, celle-ci l'avait prise en riant. Même, avec quelques gouttes du verre de Briscoe et de son doigt mouillé, elle les avait baptisées derrière l'oreille. Et, je m'en fichiste, elle leur avait donné sa bénédiction en ajoutant « Mais si tu couches avec ta Madame Suze, je t'étrangle !» Pas de danger, ni avec Hélène, ni avec Briscoe. Monique était tranquille comme cela. Pourtant, en repensant à son engourdissement de la veille, au plaisir quasi anonyme pris dans le tourbillon de la danse, une perspective moins sombre s'étendait. Repos de se laisser vivre sans pensée, en pleine torpeur. Naissance obscure aussi, d'une sensation nouvelle. Elle regarda Niquette qui se mirait dans une glace à main. C'était un de ces bibelots persans, rectangle plat dont, sous un volet de fines mosaïques, le teint brouillé garde une profondeur d'eau morte. Monique songea au lointain visage qui s'y était penché. Elle se dit qu'un jour aussi viendrait où, dans son souvenir, celui de Niquette bientôt peut-être s'effacerait, comme les images d'ombre au miroir ancien. On ne pouvait être plus liée qu'elle n'était. Et pourtant, elle sentait, soudain, la comédienne aussi étrangère à sa pensée que ces inconnus dont les yeux interrogateurs s'étaient posés, jadis, sur un reflet disparu. « Ah !» dit Niquette mélancoliquement, en poussant le volet couleur de rouille sur le rectangle doublé. « Elle n'embellit pas ta glace. Allons, je file. À ce soir. Où ?» Monique répondit sans hésiter. « Au dancing, si tu veux, comme hier. »